Vous êtes sur RTL.
7h46, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin l'eurodéputée, maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati.
Oui, avant d'évoquer ce sacré rebondissement quand même que vous provoquez à droite, Rachida Dati, un mot de l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le détenu radicalisé interpellé après avoir attaqué au couteau deux gardiens, sérieusement blessé, heureusement hors de danger. Il n'y a pas de risque zéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévenir de façon absolue tous les actes violents, surtout quand un détenu se tient à carreau, comme c'était le cas, où il y a, dans cet établissement ultra sécurisé que vous devez connaître, ancienne garde des Sceaux, un défaut évident de sécurité.
Moi, tout d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien et toute ma solidarité à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail essentiel pour notre sécurité et dont on ne mesure pas la pénibilité et la dangerosité. Sur la radicalisation, c'est un vrai sujet en prison. Moi, je l'ai toujours dit, la radicalisation, pour l'essentiel, elle se fait par le net et en prison. Et on le voit dans ce cas particulier. Mais la radicalisation en France, moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, et on me l'a reproché, et les médias me l'ont reproché, parce qu'on m'a dit que je stigmatisais. Je commençais à mettre des programmes de lutte contre la radicalisation en prison, et on m'a reproché de stigmatiser les détenus. Non, c'est une réalité. Il faut arrêter d'être angélique sur ces sujets. C'est une réalité. Il faut une politique pénale sur la radicalisation, et notamment la radicalisation en prison.
Il n'y en a pas ?
Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe ? On met des dispositifs pour lutter contre la radicalisation, des expérimentations. On traite les détenus en fonction de certains cas. Non, il faut mettre en place une politique pénale claire, avec des prises en charge claires pour les détenus radicalisés. J'en ai discuté avec Nicole Belloubet.
Pour vous, la priorité, c'est de déradicaliser. Donc, on peut d'abord déradicaliser des détenus qui le sont.
Justement, Mme Martichoux, moi je vais vous dire, le détenu radicalisé, et j'en ai rencontré de nombreux, je suis allée discuter avec eux, j'en ai rencontré en détention, vous savez que leur nombre a fortement augmenté en prison, très fortement. J'en ai rencontré d'ailleurs à Fresnes. Moi je ne crois pas à la déradicalisation, je n'y crois pas.
Ben voilà.
Alors, et donc, c'est un sujet extrêmement grave.
On les coupe de tout, on
les prend
une étanchéité absolue.
Sans doute pour certains, il faudra le faire. Et pour d'autres, il faudra mettre en place des prises en charge dédiées. Est-ce que vous vous souvenez quand la question de la pédophilie est arrivée et qu'on ne savait pas traiter ces détenus en prison ? Et pourquoi ? Parce qu'ils se tiennent très bien et quand ils sortent, ils récidivent. Et à un moment donné, on a mis en place des dispositifs qui aujourd'hui peuvent s'avérer efficaces. La radicalisation, c'est un sujet trop grave pour qu'on n'y peine pas les moyens et une politique pénale adaptée.
Mais vous dites à la fois, je voudrais juste lever cette apparente contradiction. On ne peut pas déradicaliser des détenus qui sont radicalisés, mais il faut absolument une politique pénale de déradicalisation. Sécurisation.
Non, je crois. Oui, bien sûr. Je crois à la prévention de la radicalisation. Vous pouvez prévenir la radicalisation. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire, sur le renseignement pénitentiaire, il commence à connaître les clés du processus de radicalisation. Donc, on peut prévenir la radicalisation, mais pour ceux qui sont radicalisés, il faut prendre des mesures très claires les concernant. Vous savez, quand je mets en place la rétention de sûreté, qui m'a été contestée, que la gauche voulait supprimer, la rétention de sûreté, c'est de pouvoir ne pas remettre en liberté des détenus qui sont considérés encore comme dangereux. Ces détenus radicalisés, si nous les remettons en liberté demain, et c'est la situation pour la plupart d'entre eux, ce sont des bombes à retardement.
Encore un mot, la compagne de ce détenu aurait apporté le couteau en céramique qui ne sonne pas donc sous les portiques de détection. On le découvre. On n'a pas le droit de faire des fouilles au corps. Alors, sur les personnes extérieures, c'est ce qu'explique un gardien syndiqué de l'UFAP. Vous connaissez cette règle ? On n'a pas le droit de faire des fouilles au corps pour des personnes qui viennent de l'extérieur ?
Non, on a le droit de faire des fouilles, elles sont allégées. On ne peut pas faire des fouilles détaillées. Je connais bien le sujet.
Donc on ne peut pas faire des palpations très précises.
Parce que la France, rappelez-vous, moi j'étais aux côtés de l'administration pénitentiaire, la France a été plusieurs fois condamnée, y compris pour les fouilles à corps pour les détenus.
Condamnée par l'Europe ?
Oui, bien sûr. Elle a été condamnée. Et nous avons été dans l'obligation d'alléger les dispositifs de fouille. Moi, j'étais favorable à ce qu'on maintienne les dispositifs de fouille.
Donc il y a une règle européenne qui empêche ça.
Parce que c'est lié en raison des condamnations. Nous les avons allégés, mais nous ne les avons pas supprimés. Il y a des pays qui les ont supprimés, on a été attaqués là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait revoir les règles de fouille pour les détenus, pour les détenus, c'est important de le rappeler, mais aussi pour les personnes qui accompagnent. Ce sont des sujets d'ailleurs, puisque j'en ai parlé avec Nicole Belloubet, sur lequel elle est. Ce sont des sujets trop graves pour notre sécurité, dont il faut effectivement prendre en compte. C'est un sujet important au niveau national, mais vous savez que c'est un sujet européen important, puisque moi j'ai été en charge de ces questions au Parlement européen et j'ai fait adopter des mesures très claires, très importantes au niveau européen que la France pourrait mettre en œuvre dès qu'elle le souhaite. Ces mesures ont été adoptées au niveau européen.
Pourquoi vous renoncez aux européennes, aux élections européennes, Rachida Dati?
Parce que quand Laurent Wauquiez m'a proposé d'être sixième sur la liste...
Ça c'était à qui il devait l'annoncer aujourd'hui?
Oui, et nous avons eu une discussion la semaine dernière. Il m'a proposé d'être en position éligible, comme d'ailleurs un certain nombre de sortants, et il m'a proposé d'être sixième. Donc en position éligible, j'étais confrontée à un choix. Et c'est vrai que j'ai choisi mon mandat de maire et j'ai choisi Paris. Et donc aujourd'hui, mon choix est très clair, parce qu'en politique, c'est comme dans ces combats, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut de la cohérence et de la clarté. J'ai choisi cette cohérence et cette clarté de choisir mon mandat de maire. Comme je l'ai, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, y compris avant trentaine, lorsque j'ai été élue maire du 7e arrondissement et j'étais garde des Sceaux, j'ai éprouvé une très grande émotion à avoir été élue maire, beaucoup plus que d'avoir été nommée garde des Sceaux.
Donc votre motivation première, c'est on ne court pas de lièvre bien, correctement, à la fois. Dites-moi, c'est nouveau quand
oui,
même. Comme,
mais,
c'est pour,
mais,
chez vous,
oui,
c'est
oui.
Nouveau comme conviction.
C'est-à-dire ?
Parce que vous êtes députée européenne et maire du 7e arrondissement.
Oui, mais parce que sur le cumul des mandats, je pense que cette mesure d'avoir supprimé le cumul des mandats, et moi j'en avais que deux, enfin, j'étais maire d'un arrondissement et j'étais députée européen. Le cumul des mandats, c'est effectivement de dire, pour certains, cumuler beaucoup plus de mandats que cela. Et ça a été supprimé aussi par démagogie. Parce que pour souvent pour les Français, on donnait le sentiment que cumuler des mandats, c'était cumuler des indemnités ou des salaires ou des revenus. Ce qui n'était pas le cas. Moi, par exemple, j'étais rémunéré comme député européen, mais pas comme maire d'arrondissement. Et donc, ça aussi, ça concourt à la défiance vis-à-vis des politiques. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire, je l'ai fait. J'ai choisi ma mairie et j'ai choisi Paris.
Mais alors, on a du mal à comprendre pourquoi vous vous êtes quand même battu. En tout cas, vous la vouliez, cette place sur la liste européenne. Vous l'avez dit. Donc, c'était du bluff, c'était pour avoir les
deux
œufs dans le même panier.
Non, mais je me suis battue auprès de qui et je l'ai voulu auprès de qui. Il y avait une discussion en cours de reconduire éventuellement les sortants. Nous étions nombreux à vouloir repartir. Je crois que la moitié de la délégation souhaitait être conduite. Il y avait des discussions, mais moi, je me suis acharnée après personne. Je n'ai rien commandé. Il y avait une position favorable pour les...
Vous connaissez, Rachida Dati, quand vous voulez quelque chose, vous êtes assez obstiné,
d'accord.
Vous êtes très volontaire.
D'accord.
Et donc, on a cru comprendre que vous vouliez une bonne place sur
comprendre... la... Oui. Madame Martichoux, je parle de clarté, soyez claire. L'obstination vis-à-vis de qui?
Vis-à-vis de vous-même, mais du parti. Vous vouliez une bonne place.
Vis-à-vis de vous-même, vous êtes dans ma tête, dans mon corps. Vis-à-vis de moi-même. Moi, la clarté et la cohérence, c'est moi-même. Mais vous n'êtes pas dans moi-même. Et vis-à-vis du parti, c'est qui? Vis-à-vis de qui? C'est des discussions que j'ai eues avec Laurent Wauquiez.
Avec vos colistiers, avec les députés sortants.
Avec qui?
Avec les députés sortants.
Oui,
vous n'avez jamais parlé? Non, vous n'avez jamais parlé?
Non, on en a discuté avec Laurent Wauquiez, avec Arnaud Beuron, que j'aime beaucoup, qui est son directeur de cabinet. Et avec son entourage, c'est une discussion politique.
Vous l'avez prévenu quand d'ailleurs ? Vous l'avez prévenu quand, Laurent Wauquiez, que vous faisiez ce choix radical ?
En début de semaine. Mais on en avait discuté. Moi, je lui ai dit, j'ai un choix à faire. Et il m'a dit, écoute, Rachida, simplement, moi, il faut que tu me le dises avant la commission d'investiture.
Et par respect
pour Laurent et puis pour aussi les autres personnes qui figureront sur la liste. Puis vis-à-vis aussi d'Éric Ciotti, que j'ai informé également, qui est président de la commission nationale d'investiture.
Est-ce que le choix de François-Xavier Bellamy a joué? Il est tête de liste.
Je suis venue d'ailleurs sur votre antenne pour dire que ce trio était très complémentaire. Moi, j'aime beaucoup Agnès Evren, que j'ai soutenu pour la Fédération de Paris, qui est aussi un autre signe de reconquête de Paris, parce qu'elle a gagné cette fédération contre l'avis de beaucoup, d'ailleurs. Et puis Arnaud Danjean, qui est un ami et qui est effectivement un parlementaire européen avec lequel j'ai travaillé sur les sujets de sécurité et de terrorisme au Parlement européen.
J'ai envie d'être candidate au sujet de Paris. Je n'ai rien à perdre, c'est ce que vous avez dit récemment. La mairie de Paris, c'est un beau combat.
Oh, bien sûr, c'est un beau combat. Qui vous dirait le contraire, hein?
Donc, vous en avez très envie?
Moi aussi, j'en ai très envie.
J'ai envie d'être candidate.
J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Je pense qu'il y a une alternative qui est possible. Je pense que la droite et le centre peuvent gagner Paris. Il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas dans ce combat.
Votre parti a discrètement commandé une enquête à l'IFOP récemment. Ça n'a pas été publié, l'IFOP. C'est une enquête qui était encourageante pour vous?
Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Non, je suis. Je suis très franche avec vous. Mais vous le savez très bien, dans les partis, souvent, il y a des enquêtes dont vous n'êtes même pas informé qu'elles aient eu lieu. Ça, je vous dois l'honnêteté de dire que j'ai été au courant de que cette enquête a été réalisée. Mais je vais vous dire. Parce que sur les enquêtes d'opinion, vous pourriez orienter les questions. Donc, vous savez.
Enfin, là, c'était un choix de. C'était un test sur les différentes candidatures. Dernière question. Vous avez quand même quelques solides ennemis à droite. Ils pourraient vous faire reculer ou pas dans votre tentation de prendre Paris?
Est-ce que c'est la première fois que j'ai des solides ennemis, Madame Martichoux? Non. Vous savez, à chaque fois que je venais, moi, je me souviens, c'était VSD, pour ne pas le citer, tous les ans. Je suis en politique depuis quand même 2002. Tous les ans, ils faisaient une en décembre, je crois. La dernière croisade, le coup de grâce, elle est morte, elle est tombée. Voilà, je suis encore là. Voilà, il y a des combats à mener. Moi, j'aime la politique, j'aime l'engagement public, j'aime l'action publique, donc je continuerai mes combats. Et j'aime ma mairie du 7e arrondissement et mes administrés auxquels je dois beaucoup.
Et même Paris. Ah,
j'aime
tout
beaucoup
entier,
Paris, bien
et
sûr.
Donc, on sent que vous êtes lancé. Ou presque. Merci beaucoup, Rachida Dati, d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini dans un tout petit instant.